France Inter, franceinter.com.
Bonjour, aujourd'hui, les pharaons. La pyramide reste et on la voit, mais on oublie le pharaon. Une Ochélas. Mille ans d'histoire. Il s'appelait Khéops, Aménophis, Hatchepsut, Akhenaton, Toutankhamon ou Ramsès II. Moitié homme et moitié dieu, pendant plus de 3000 ans, les pharaons ont régné sur l'empire le plus fascinant et le plus long de l'histoire. Depuis Narmer, qui fut le premier d'entre eux à proclamer sa souveraineté sur l'ensemble de la Haute et de la Basse Égypte il y a plus de 50 siècles, les pharaons ont laissé derrière eux, dans leurs tombeaux, leurs temples et leurs palais, les vestiges d'une civilisation disparue et qui n'a pas encore livré tous les secrets que les archéologues continuent de chercher en espérant avoir un jour autant de chance qu'Howard Carter quand il découvrit en 1922 le tombeau de celui qui fut en même temps le plus connu et le moins important des pharaons.
33 centuries had passed since human feet last trod the floor on which we stood.
33 siècles avaient passé depuis que l'homme, pour la dernière fois, avait marché sur ce sol. Et pourtant, nous avions autour de nous tous les signes de la vie moderne. Un bol à moitié rempli de mortier, une lampe noircie, des copeaux de bois laissés sur le sol par un charpentier négligent. Et quand nous avons vu un tombeau d'or avec des portes fermées et scellées, nous avons compris alors que nous étions en face du roi mort Toutankhamon.
Isabelle Franco, bonjour. Je suppose que l'égyptologue que vous êtes doit être ému d'entendre Howard Carter, le découvreur de Toutankhamon.
Ah oui, c'est très émouvant de l'entendre, une figure du passé. Puis c'est un personnage clé de l'égyptologie, puisque un siècle après la découverte des hiéroglyphes, qui était la première porte, il met au jour la clé, disons, de l'au-delà des rois à l'époque du Nouvel Empire.
Parce que Toutankhamon n'était pas du tout un pharaon important, mais en même temps, cette découverte, ça a été, comme vous le dites, une clé pour comprendre les pharaons.
C'est paradoxal, mais... Maintenant, on revoit un peu à la hausse l'importance de Toutankhamon. Vous savez qu'il arrive après une période très troublée. Il est le fils du fameux Akhenaton, qui avait instauré une religion un petit peu à part en Égypte, qui lui voulait le pouvoir...
Culte d'Aton.
Le culte de l'Aton, oui, qui est la seule forme visible du divin et pas un dieu unique. Donc, il a fallu remettre de l'ordre après cette hérésie, entre guillemets. Et ça s'est passé sous le règne de Toutankhamon. Il monte sur le trône, il a 9-10 ans, il meurt une dizaine d'années plus tard. Et on a longtemps pensé que c'était un jeune homme entre la main de ceux qui avaient vraiment le pouvoir, c'est-à-dire son successeur Haï et le général Horemheb. Mais en réalité, on pense qu'en fait, c'est vraiment sous son règne que l'orthodoxie ammonienne, le grand dieu Amon de Karnak, s'est remise en place.
En tout cas, il n'est que l'un des souverains des 31 dynasties qui ont régné sur l'Égypte. Jamais dans l'histoire, on a vu un État durer aussi longtemps, à peu près 3000 ans. Qui est le premier des pharaons, Isabelle Franco?
Bon, la question est un peu controversée. On situe la naissance de l'institution monarchique, en gros, vers 3200 avant Jésus-Christ, avec des rois qui ont en fait unifié les deux Égyptes, parce que la caractéristique de l'Égypte avant l'histoire, c'est qu'il y a une entité politique qui recouvre la vallée, le sud, et une entité politique dans le delta.
Le sud, c'est la Haute-Égypte.
La Haute-Égypte,
et le delta du Nil,
c'est le nord, c'est ce qui donne sur la mer. Et donc, l'Égypte ne peut naître et s'épanouir que quand ces deux royaumes sont unis sous une seule couronne. Donc, ça se passe autour de Narmer, vers 3200 avant Jésus-Christ.
C'est extraordinaire, c'est le mot pharaon n'est né que 15 siècles après les premiers pharaons, Isabelle Franco.
Oui, Per Aa, le mot égyptien qui est à l'origine de pharaon, ça signifie la grande maison. Et ça désigne la résidence royale, un peu comme on dirait l'Élysée, la Maison Blanche, pour parler de l'État. Donc Per Aa, c'est l'institution monarchique. Et on voit apparaître à l'époque de Thoutmose III, en gros 1500-1450 avant Jésus-Christ, on s'aperçoit que le terme commence à désigner la personne du roi. C'est encore plus vrai à l'époque d'Akhenaton, et ce n'est que beaucoup plus tard que Peraa désigne officiellement le roi, au point que à l'époque romaine, quand on faisait des monuments où Pharaon, entre guillemets, c'est-à-dire le roi était l'empereur très lointain, comme on ne connaissait pas son nom, on mettait Pharaon dans le cartouche, Peraa.
Et parmi eux, évidemment, quelques-uns de très célèbres, comme le bâtisseur de la plus grande des pyramides, Khéops, dont l'histoire a inspiré un des nombreux péplums, plus ou moins bons, il faut bien le dire. Et parmi eux, quand même, ce péplum, le plus sérieux peut-être, la terre des pharaons de Howard Hawks.
À moi, Emar, grand prêtre d'Égypte, revient l'honneur de rédiger la chronique du règne de Khéops, souverain de ce pays. Nous venons d'apprendre que de nouveau, il a été victorieux dans la guerre contre nos ennemis. Et maintenant, l'Égypte est devenue la plus grande nation sur la surface de la Terre. Aujourd'hui, c'est le retour de Pharaon et de son armée. Tel est Pharaon, descendant direct de notre dieu Amon, dieu du soleil qui règne dans les cieux, comme Pharaon règne sur la Terre.
Et oui, Isabelle Franco, la légitimité de tous les pharaons, c'est leur pouvoir divin. On sait que nos rois étaient rois de droit divin. Là, c'est plus que ça. Les pharaons sont des dieux.
Alors ça, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette notion. C'est-à-dire que la fonction monarchique est divine. C'est-à-dire que les Égyptiens avaient imaginé leurs dieux, pour simplifier, comme des rouages d'une gigantesque mécanique pour que le monde fonctionne bien. Et parmi ces rouages, il y avait la nécessité d'un intermédiaire entre les hommes et les dieux, c'était la fonction monarchique. Donc ce côté-là est totalement divin et indispensable au fonctionnement du cosmos, mais le titulaire de cette fonction, c'est un homme, un mortel, et ça reste donc un être humain. Donc l'homme existe, mais il est d'une essence surnaturelle, il n'est pas tout à fait un dieu.
On dit souvent, enfin la légende dit, que le premier souverain mythique de l'Égypte serait justement un de ces dieux, qui est Horus, je crois. Parce qu'on s'y perd un peu entre tous ces dieux de l'Égypte antique. Lesquels sont les plus importants? On a entendu dans ce péplum citer Amon. Au nom de quel dieu les pharaons gouvernent-ils, s'ils ne sont pas dieux même?
Écoutez, pour la monarchie, en tout cas à ses débuts, donc à l'époque de Khéops, c'est essentiellement Horus. Horus, c'est peut-être le tout premier pouvoir divin associé à la monarchie en Égypte. C'est le dieu tout-puissant, le dieu céleste, le dieu dominateur. À cette époque, il est associé au soleil. À l'époque des pyramides, quelques siècles après Khéops, on voit apparaître Ré, donc le soleil. Et à partir de la 5e dynastie, le roi est le fils du soleil. Donc ce sont les deux phares. Et Amon, on le voit apparaître beaucoup plus tard, il commence à naître vers l'an 2000-1900 avant Jésus-Christ, et il devient vraiment le dieu de l'Empire égyptien vers 1500 avant Jésus-Christ.
Alors ce pouvoir divin, s'ils ne sont pas dieux eux-mêmes, ça leur permet d'exercer un pouvoir absolu. Christiane Ziegler, qui est responsable des antiquités égyptiennes au Louvre, dit même qu'au fond, le pharaon, c'est le premier chef d'État de l'humanité.
Oui, on peut le dire comme ça. Il faut toujours se replacer. Nous, on a tendance à projeter nos propres concepts, nos propres visions politiques sur ce qui était quand même un État, un des premiers États des civilisations humaines en général. Il y a la Mésopotamie qui fonctionne différemment, il y a la Chine. Mais bon, nous, on est proche de l'Égypte. Pouvoir absolu, État, ce sont des notions qui nous sont propres. Il faut voir que l'Égypte à cette époque, ce n'est pas une oasis où tout le monde est heureux et attend benoîtement une éternité fixée depuis le départ. Ce sont des gens qui doivent se battre et avant tout se battre contre la nature, c'est-à-dire se battre contre le fait que les rives du Nil ont tendance à redevenir des marécages. Il faut lutter, pour lutter efficacement, il faut une organisation solide. Il faut aussi se protéger des incursions des pillards du désert. Et c'est en cela que Pharaon devient un personnage clé, parce qu'il est à la tête de l'administration. Ce que j'aurais pu vous dire tout à l'heure à propos du pouvoir divin, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il est le représentant des hommes. Il est le premier homme. Il est l'homme avec un grand H, l'homme par excellence. Et donc, il est responsable de l'ensemble du troupeau des hommes. Et donc, c'est pour cela qu'il est le chef de tout cela. Il est le représentant sur Terre de Ré, du soleil créateur. Donc, ces hommes ordres, ses consignes sont équivalentes à la création. Et ce qu'il décide, c'est pour le bien-être de tous. Et c'est en cela qu'il est le chef de tout cela. Oui, c'est un pouvoir absolu, mais c'est peut-être pas le premier chef de l'État au sens moderne du terme.
En tout cas, il est le chef et avec des symboles, des signes. Par exemple, la double couronne. Deux couronnes emboîtées qui signifient chacune la couronne d'une des deux Égyptes, la haute et la basse Égypte, c'est ça Isabelle Franco.
Oui, c'est-à-dire que pour que l'Égypte existe, il faut qu'elle soit une, mais il faut qu'avant elle était divisée. Tout ça, c'est très, très... Elle a été divisée. Le pharaon est celui qui réunit les deux Égyptes. Donc il porte la couronne rouge, c'est le mortier qui se termine derrière par une sorte de pointe, puis il y a une petite courbe par devant, ça c'est la couronne rouge du delta, du nord de l'Égypte. Et dessus, il y a une sorte de haute mitre blanche qui est la couronne de Haute-Égypte. En main, il tient deux sceptres qui sont peut-être associés eux aussi à la Haute et Basse-Égypte et on pense qu'il s'agit en fait d'un fléau et d'une crosse de berger. Ce qui serait intéressant parce que ça serait peut-être l'expression de l'ancienne nature de ces peuples qui se sont installés sur les rives du Nil, c'est-à-dire que avant la révolution du néolithique, c'était à la fois, ils sont devenus plutôt des éleveurs et des paysans, donc des gens qui battaient le blé pour avoir du pain.
Les deux sceptres qu'ils portent sur leur poitrine, les mains croisées
sur la poitrine.
Ça, c'est uniquement pendant les grandes cérémonies. Il y a aussi la barbe postiche.
Oui, la barbe. Alors là, l'origine de la barbe postiche, on n'en sait rien. Alors, il ne faut pas confondre la barbe des dieux qui est légèrement recourbée et la barbe du roi qui est droite. Peut-être un très très archaïque symbole de virilité. L'homme qui porte la barbe, c'est le vénérable, celui qui est le chef du clan.
En tout cas, les signes d'un pouvoir que le pharaon exerce sans partage ou presque sur un pays dont il est le propriétaire du sol, du sous-sol, des eaux, des hommes et des monuments qu'il construise.
J'impose à l'Égypte une tâche qui serait impossible dans tout autre pays au monde. Sur les sables du désert, vous bâtirez une pyramide. Ce sera un édifice plus grand que tout autre sur la surface de la terre. Cette pyramide sera mon lieu de repos pour ma vie future. Chacun de vous est lié à moi par un pacte. Qu'il travaille comme jamais homme n'a travaillé. Et moi, le dieu vivant de l'Égypte, je vous fais une promesse. Cette promesse, c'est que chaque homme, par son travail, s'assurera dans sa seconde vie une demeure pour lui-même.
Amen. Amen.
Et c'était un autre extrait de la terre des pharaons, Khéops se faisant construire la plus grande des pyramides. Cela dit, des pyramides, c'est les plus connus pratiquement des monuments d'Égypte qui se trouvent au sud du Caire. Dans une des capitales, il y en a eu plusieurs de l'Égypte pharaonique, Isabelle Franco.
Oui, alors les capitales, là aussi, c'est un concept moderne. La capitale est là où est le roi. C'était vrai également dans notre histoire. Il y a en tout cas un centre. Le centre névralgique de l'Égypte, c'est Memphis, au sud du Caire actuel. C'est une ville qui aurait été fondée au moment de la réunion, justement la première réunion de la Haute et de la Basse Égypte.
Il y a un peu plus de 5000 ans.
Elle est à la jonction entre le delta et la vallée du Nil, ça restera de tout temps le centre administratif de l'Égypte. Il y a sinon des capitales religieuses de l'Égypte, comme Thèbes, où était le dieu Amon, où les rois du Nouvel Empire, c'est-à-dire de 1500 en gros à 1000, se sont fait enterrer. Akhenaton aura sa propre capitale à Amarna. Les Ramsès vont se faire construire une cité magnifique à l'est du delta, où ils pourront plus facilement aller combattre leurs ennemis du Proche-Orient, donc vous voyez que la capitale est très fluctuante. Père Ramsès,
Qui aurait été construite, alors là j'invente un autre film dont on n'aura pas d'extrait, mais qui aurait été construite par Moïse et des esclaves. Alors beaucoup d'historiens de l'Égypte, de l'Antiquité égyptienne me disent qu'il n'y a pas eu d'esclaves. Il y a eu des Hébreux en Égypte, mais ils n'étaient pas esclaves.
Non, alors déjà le terme d'esclavage chez nous est connoté, c'est pas du tout un esclavage à la romaine. C'est-à-dire qu'un homme qui est prisonnier de guerre essentiellement, ou prisonnier de droit commun, c'était une façon de racheter sa faute, à sa liberté de posséder des biens, peut se marier, peut avoir des enfants, transmettre ses biens. Donc il n'y a pas une aliénation totale de la liberté comme par exemple chez les Grecs. Quant aux Hébreux, à mon avis, c'est un sujet très délicat, donc je le dis avec tous les gants qu'il faut, c'était une à mon avis, une petite tribu de population qui est certainement venue se réfugier en Égypte, comme beaucoup d'autres, au moment d'une famine ou d'un moment de désertification très fort. Là, ils se sont intégrés aux populations locales et ont été utilisés comme main-d'œuvre, comme beaucoup de gens et beaucoup d'Égyptiens eux-mêmes, libres.
Alors, ces grands travaux, l'administration de l'Égypte, Isabelle Franco, c'était une tâche énorme, écrasante pour le roi, mais il avait un gouvernement, il déléguait son pouvoir temporel, oui. Il y avait un Premier ministre, c'était le vizir, c'est ça?
Alors, ce n'est pas un Premier ministre. Alors, c'était le Premier ministre, à proprement parler, c'était le roi lui-même. C'est-à-dire qu'il avait des responsables de des sections importantes pour le fonctionnement de l'Égypte, l'agriculture, le trésor, l'inondation, ça c'était essentiel. Donc, des hommes qui coordinaient les travaux de l'ensemble des fonctionnaires et qui recueillaient les informations nécessaires au juste fonctionnement de l'Égypte. Quant à ce qu'on appelle vizir, qui est un terme emprunté au vocabulaire ottoman, c'était plutôt le responsable des affaires intérieures de l'Égypte. C'était plutôt un ministre de l'intérieur, pour employer un mot moderne.
Alors le pharaon était aussi un chef de guerre, il participait même... Il mettait la main à la pâte. Oui. Hein. Ramsès II avait battu les Hittites dans la plus célèbre bataille peut-être de l'époque. Vous avez l'air sceptique. En fait, en réalité, j'affirme des tas de choses dont on ignore si elles ont existé, parce qu'on ne sait pas grand-chose de l'histoire d'Égypte.
Voilà,
en fait.
On ne sait pas grand-chose parce que les monuments illustrent une réalité, enfin une sorte d'idéal. Donc ce qui s'est passé avec les Hittites, c'est que Ramsès II, ils ont fait match nul en fait. Ils ont maintenu l'ordre, mais... aucun n'a vraiment vaincu l'autre. Et c'est amusant parce que dans les archives...
C'était la bataille de Kadesh.
Voilà, la bataille de Kadesh. Et que ce soit en Égypte ou chez les Hittites, on dit on a gagné. Mais en fait, personne n'a gagné. Mais ça a fait respecter le statu quo.
Alors, il y avait aussi autre élément important de ces institutions. Même si le pharaon est le premier des prêtres, il y a un clergé. Et un clergé qui a souvent battu ou contesté ou limité les pouvoirs de pharaon, le clergé d'Amon, Isabelle Franco.
Oui, alors beaucoup de questions en une. Oui, bien sûr, le roi, il était responsable de tout. Donc, il devait déléguer, et évidemment, pour le culte, puisqu'il l'accomplissait normalement le culte tous les jours dans tous les temples d'Égypte. C'était pas possible. Il déléguait à des prêtres. Alors, certains sanctuaires sont devenus plus importants que d'autres, comme celui de Karnak, donc dans la Louxor moderne, parce que le dieu Amon était le dieu d'Empire. Donc, c'était le dieu qui donnait la victoire à Pharaon, et en échange, je simplifie, Pharaon donnait des exemptions de taxes, partageait les tribus. Donc, le clergé d'Amon est devenu très, très puissant économiquement parlant. Et Amon étant le père spirituel du roi à cette époque, le clergé d'Amon s'est d'un seul coup immiscé dans les affaires du royaume en intervenant plus ou moins directement dans le choix de l'héritier du trône. Et c'est pour ça qu'à certains moments, Akhenaton en particulier s'est rebellé contre cette ingérence du clergé dans les affaires de l'État.
En tout cas, le clergé était chargé de la cérémonie la plus importante du règne de chaque pharaon, ses obsèques.
Peuple d'Égypte, voici venue l'heure où Pharaon va déposer le fardeau de cette vie. Tout est prêt pour la cérémonie. Nous attendons vos ordres pour commencer.
J'ordonne qu'on commence.
Anubis, que fais-tu aux dormeurs prêts à l'éternel voyage?
Je débarrasse les pieds de mon frère de leurs impuretés, afin que la poussière terrestre ne souille pas le ciel.
Anubis, que fais-tu au dormeur qui fut souverain en ce monde?
Je délivre mon frère de tout ce qui est terrestre, afin qu'il atteigne la vraie beauté.
Alors Anubis, c'était le dieu à la tête de chacal, je crois, qui était le patron des embaumeurs.
Entre autres, oui, c'est le dieu qui était celui qui guidait la partie spirituelle des individus après leur mort dans l'au-delà.
Qui était donc présent, si on peut dire, lors de ces obsèques, qui étaient vraiment grandioses. On attachait évidemment une grande importance. On sait que le pharaon ne quittait que son apparence terrestre ou charnelle, mais qu'il vivait au-delà. L'importance de l'embaumement, et comment se pratiquait-il? Comment peut-on retrouver aujourd'hui des corps intacts ou presque, qui datent d'il y a 4000 ans?
En premier lieu, c'est le climat de l'Égypte qui favorise cette dessiccation des corps, dessiccation naturel que l'on peut trouver pour des enterrements pauvres, à même le sable. Par la suite, les Égyptiens ont cherché une technique qui permettait de préserver le corps. Alors, Pour simplifier, le corps est la marque physique matérielle de la présence d'un individu dans le monde terrestre. Donc il faut la préserver un petit peu comme on fait des statues pour que les dieux soient présents dans le monde terrestre. Il faut préserver ce corps, donc on le préparait de façon à éviter toute possibilité de putréfaction après la mort.
On retire les viscères,
on retire les viscères, voilà, qu'on met dans des vases à part, parce que même si on les enlève, même s'ils sont destinés à pourrir, ils font partie intégrante de l'individu. Il ne faut pas perdre un morceau de l'individu quand on enterre.
Alors, vous dites qu'à la mort de chaque pharaon, Isabelle Franco, c'était à chaque fois le bouleversement de l'équilibre politique, même
total.
Un moment de chaos.
Le chaos est rituel, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, la fonction monarchique est indispensable au fonctionnement du monde, à l'équilibre cosmique, ce qu'on appelle la mat, l'harmonie universelle. Et donc, quand un roi meurt, eh bien, la mat est mise à mal. C'est-à-dire que il n'y a plus de roi, donc il n'y a plus ce rouage intermédiaire, on a envie de dire l'interface entre le monde des vivants, enfin le monde terrestre et le monde des dieux. Donc c'est dramatique. Donc il y a son successeur, le successeur d'un roi défunt, va exercer le pouvoir, je dirais, à l'instant même où son prédécesseur meurt.
Le pharaon est mort, vive le pharaon.
Exactement.
Comme chez nous, ouais.
Oui, exactement, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de rupture. En revanche, l'aspect rituel, le couronnement, c'est-à-dire le moment où l'héritier du trône va assumer la fonction divine à proprement parler, ça peut avoir lieu plus tard. C'est une cérémonie très solennelle en rapport avec les cycles cosmiques, donc il faut préparer.
Alors, donc c'est comme ça que se sont transmis les pouvoirs de pharaon en pharaon pendant 3000 ans.
Plus de
3000 ans. Avec quelques pharaons, si je puis dire. Je ne sais pas comment on les appelait. Il y a eu quelques femmes.
Il y a eu quelques femmes qui ont exercé pleinement le pouvoir royal. Oui, c'est vrai.
Hatshepsut, par exemple.
Hatshepsut est celle qui est la plus attestée. Alors, Hatshepsut est un personnage important parce qu'elle arrive à un moment d'essor. C'est le tout début du Nouvel Empire, cette période fabuleuse. Où l'Égypte est au sommet de sa civilisation. Et son père n'est pas l'héritier du trône. On ne sait pas d'où sort son père, qui s'appelait Thoutmôsis Ier. Elle épouse un roi qui meurt jeune. Le fils de ce roi, Thoutmôsis II, qui sera Thoutmôsis III, est un enfant au moment où il accède au trône. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un de mûr, d'énergique, qui soit en relation avec les pouvoirs de l'époque, pouvoir religieux, pouvoir politique. Donc elle choisit d'assumer une régence un peu longue, une vingtaine d'années, de façon à asseoir sa dynastie.
C'était pas le pouvoir royal proprement dit.
Non. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas dans les listes royales par la suite. Elle n'a jamais été roi à proprement parler. Elle est devenue plus qu'une régente. Elle a assumé, je dirais, la moitié de la monarchie à côté du jeune Thoutmôsis.
Puis il y a eu la dernière, c'était au 1er siècle, c'était Cléopâtre,
oui.
Une des Cléopâtres.
La dernière des Cléopâtres, Cléopâtre VII. Voilà.
C'est quand même extraordinaire. Comment se fait-il? Parce qu'au fond, c'est rituel. Le fonctionnement de cette monarchie, ça n'a pratiquement pas bougé pendant plus de 3000 ans. Il y a eu quelques évolutions, mais pratiquement pas. C'est pour ça qu'on a l'impression que tous les pharaons, on oublie qu'entre Cléopâtre et le premier pharaon, il y a 3000 ans qui les séparent.
Plus de 3000 ans, oui. Ben moi, je crois que c'est simple. Ils avaient mis au point un système politico-religieux qui fonctionnait. La preuve, ça a duré 3000 ans. Pourquoi en changer? C'est ça, la permanence.
Et peut-être aussi parce que, au fond, les envahisseurs eux-mêmes ont respecté. Je rappelle que la dernière des dynasties qui a régné sur l'Égypte, des dynasties pharaoniques, ce sont les Ptolémées, c'est-à-dire les descendants du premier Ptolémée, qui était un général d'Alexandre. Quand Alexandre arrive en 332 avant notre ère en Égypte, il installe son général et son général va donner la dernière des dynasties, des 31 dynasties qui ont gouverné l'Égypte. Avec Rome, ça disparaît, les pharaons.
Les pharaons, non. Le concept de pharaon dure. Les empereurs romains sont pharaons.
Ah oui,
vous trouvez, oui, dans les temples égyptiens, vous trouvez le nom d'Adrien, vous trouvez le nom en hiéroglyphe dans les cartouches. Et je vous disais tout à l'heure, quand on ne sait pas qui règne à Rome, on met pharaon. La monarchie pharaonique perdure. L'Égypte elle-même va perdre son identité à partir du moment où ses envahisseurs, ayant eux-mêmes une identité forte, ne vont plus s'égyptianiser et se fondre dans le moule de la civilisation pharaonique.
Alors, comment se fait-il que cette civilisation égyptienne, celle des pharaons, nous fascine autant alors qu'on lui doit beaucoup moins, en définitive, comme héritage que la Grèce ou Rome ?
Je pense personnellement que c'est peut-être la notion d'éternité qui transpire à la fois de ces monuments gigantesques qui défient toujours le temps et en même temps, quand on va dans les tombeaux, l'extrême sérénité de ces personnages pour l'éternité.
Et des personnages que l'on retrouve dans votre livre, Isabelle Franco, « Les grands pharaons et leurs œuvres » publiées chez Pygmalion. À lire également « L'abécédaire des pharaons » de Sophie Labbé-Toutet et Florence Maruéjol, publié chez Flammarion, et enfin le Larousse des mythologies du monde de Fernand Comte, où l'on trouve un article sur la mythologie égyptienne. Vous avez pu entendre des extraits de La Terre des Pharaons, un film de Howard Hawks. Vous pouvez retrouver ces renseignements par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Olivier Riotor et Éric Gérard, documentation Virginie Bloch-Lenné, Claire Tesser et Cédric-Joseph Julien, une réalisation de Anne Kobilac.